Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. C'est une émission spéciale que nous vous proposons ce soir avec l'une de nos reporters de retour d'Haïti. Il y a un mois jour pour jour, le 14 août, le pays était frappé par un nouveau séisme meurtrier. Un tremblement de terre de magnitude 7,2, particulièrement dévastateur dans le sud de l'île. Il a fait 2248 morts, près de 13 000 blessés et plus de 300 disparus. Côté infrastructure, ce sont près de 140 000 maisons qui se retrouvent aujourd'hui inhabitables, dont 60 000 entièrement détruites. Alors un mois plus tard, à quoi ressemble le quotidien des sinistrés? Et où en est l'aide humanitaire alors que l'État est toujours en pleine crise institutionnelle depuis l'assassinat de son président en juillet? C'est le décryptage du jour, soyez les bienvenus. J'ai le plaisir de recevoir en studio Stéphanie Schuller, journaliste au service international de RFI. Bonsoir Stéphanie.
Bonsoir Clémentine.
Alors vous avez couvert le séisme en Haïti, on a pu entendre sur RFI vos reportages et les témoignages que vous avez pu recueillir sur le terrain tout au long de votre séjour. D'abord Stéphanie, lorsque vous avez quitté le pays, à quoi ressemblait-il? Dans quel état l'avez-vous laissé? Quelle est la première image quand on vous parle d'Haïti qui vous vient à l'esprit?
Je pense que la première image qui me vient à l'esprit, je pense qu'elle est assez révélatrice, c'est l'image d'un abri provisoire d'une famille de paysans dans la montagne. Quand on parle d'abri provisoire, il faut s'imaginer quatre simples bâtons de bois avec des draps autour et au-dessus pour abriter la famille du soleil, mais malheureusement pas de la pluie. Cette famille m'avait ouvert la porte, entre guillemets, qui n'était plus une porte, de cet abri provisoire. J'ai vu à l'intérieur de cette petite hutte, si on peut dire ça comme ça, deux enfants de bas âge dormir, faire leur sieste de l'après-midi à même le sol. C'est cette image-là que je garde en tête. C'est donc dans la montagne. Et une autre image me vient en tête également. C'est celle de Rose Lafortune. C'est une jeune médecin qui travaille au centre de santé de Beaumont et qui était devant ce centre de santé détruit également par le tremblement de terre, mais où ils ont quand même soigné des blessés. Beaumont se trouve dans la Grand'Anse. Et elle regardait, elle se tenait devant le centre de santé et elle regardait la montagne de l'autre côté de la rue. Et elle me disait, je sais que derrière ces montagnes, il y a des blessés qui sont toujours là. C'était 10 jours après le tremblement de terre. Je sais que ces blessés-là ne peuvent pas venir vers nous parce que les chemins sont devenus impraticables. Je sais qu'il y a en ce moment des blessures et des fractures qui se surinfectent. Et je sais que ces personnes-là risquent leur vie et risquent de mourir alors qu'ils ne sont pas morts pendant le tremblement de terre. Je pense que c'est à ces deux images-là que je pense.
Il y a bien sûr toutes les blessures physiques, il y a aussi la blessure psychique. Une population, on l'imagine, traumatisée.
Oui, absolument. Traumatisée par ce qui est arrivé. En fait, comme évidemment, après chaque catastrophe naturelle, n'est-ce pas, ça laisse évidemment des traces psychiques. Nous avons par exemple rencontré un directeur d'école. J'ai pensé beaucoup à lui après. D'ailleurs, on est toujours en contact depuis. C'était dans la ville de l'Asile, qui se trouve dans le département d'Inip. Alors, son école, par pure chance, était restée debout et servait du coup d'abri provisoire pour des sinistrés de la ville. Et on avait discuté, en fait, de la réouverture, de la faisabilité de la réouverture des classes. Et je disais, comment vous allez faire avec les sinistrés qui sont maintenant à l'intérieur de votre école et comment vous allez faire pour accueillir les élèves? Et il me disait, mais mon principal problème aujourd'hui, c'est pas les sinistrés à l'intérieur de l'école. Mon principal problème aujourd'hui, c'est que ma maison était entièrement détruite. Ma famille, mes enfants, ma femme dorment avec moi à la Belle Étoile et je suis moi-même traumatisée et je ne me sens pour l'instant pas capable d'être le directeur de 900 élèves pour reprendre les classes. Ça, c'est par exemple un exemple, mais il y a, si vous voulez, toutes les sinistrés ou tous les gens qui ont vécu ce tremblement de terre, et vous savez peut-être qu'il a été ressenti dans l'ensemble du pays, alors qu'il concerne vraiment trois départements dans le Grand Sud, comme disent les Haïtiens, dans le sud-ouest d'Haïti, c'est-à-dire le département du Sud, la Grand'Anse et l'Inip. Mais ce tremblement de terre a été ressenti avec sa force dans l'ensemble du pays. Et les gens qui ont vécu ce tremblement de terre, aujourd'hui, souffrent vraiment du stress post-traumatique. C'est comme ça qu'on l'appelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils sursautent au moindre bruit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Et c'est vrai que Il y a aussi une raison réelle et très physique, si vous voulez, en fait, que ce traumatisme reste réel, parce qu'il y a des répliques. Il y a eu depuis le tremblement de terre plus de 700 répliques. Et bien sûr, à chaque fois que la terre tremble, eh bien, ça réveille l'angoisse.
Et vous avez, vous aussi d'ailleurs, Stéphanie Schuller, vécu ces répliques concrètement. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là?
Alors, c'est une sensation absolument incroyable et très angoissante, en effet. Alors, nous, c'était que des répliques, mais il y avait pendant notre séjour, je dirais 3 ou 4 répliques assez fortes, dont une, je pense, qui était à 5,3 sur l'échelle de Richter, c'est déjà assez fort. Nous étions à ce moment-là en train de travailler, on était assis sur une terrasse, donc de béton, et on a vraiment l'impression, comme vous et moi, là, en fait, d'être assis sur du dur. Enfin, on fait confiance dans la stabilité de la structure. Et ce qui se passe d'abord, c'est quelque chose de très incroyable, c'est d'abord un bruit. C'est un bruit qui... Alors, je ne sais pas si le bruit sort de la terre, mais c'est l'impression que ça donne 1 seconde ou 2 secondes, et c'est ensuite ça commence à secouer. Ou est-ce que peut-être ça commence déjà à secouer, on se rend compte d'abord du bruit, je ne sais pas. Mais il y a ce bruit qui arrive d'abord, comme une sorte de grand camion qui démarre. Vous voyez, un truc vraiment assez énorme. Et ensuite, la structure sur laquelle vous êtes assis, et vous estimez que c'est en dur, ça bouge dans tous les sens, et on a l'impression comme si le sol, le béton sur lequel on est assis, devient liquide. Et c'est quelque chose d'extrêmement angoissant.
Un des résultats de ces répliques et surtout de ce séisme, c'est qu'aujourd'hui, on le disait, 140 000 habitations ont été endommagées, 60 000 complètement détruites. Concrètement, comment vivent ces sinistrés? Comment est-ce qu'ils s'organisent au quotidien?
Alors, il y a différentes façons de s'organiser pour les sinistrés. Il y en a certains qui essayent de faire qui veulent aussi faire, je m'explique après, ce que a préconisé l'État haïtien. L'État haïtien, avec le gouvernement par intérim actuel, a dit, vouloir tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2010. Vous vous souvenez, quand le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010 a frappé la capitale Port-au-Prince, surpeuplée, où là, il y a eu des millions de déplacés et des sans-abri qui se sont rassemblés dans des grands camps de fortune, avec évidemment toutes les problématiques qui viennent avec ces camps de fortune, c'est-à-dire problèmes d'hygiène, problèmes d'alimentation, problèmes de violence, problèmes de criminalité, de violence faite aux femmes, etc. Donc le gouvernement actuel a dit, on veut surtout pas reproduire le même phénomène, et donc on préconise que les sinistrés restent à côté de leur maison et essayent de se mettre à l'abri à côté de leur maison. Donc ce n'est pas possible pour tout le monde, parce qu'il est concrètement très compliqué de s'installer sur une maison effondrée, et pas tout le monde a la possibilité de s'installer dans une cour ou sur des débris, tout simplement. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi que les sinistrés essayent de s'organiser en groupe. Donc ils s'installent parfois sur des terrains vagues, pour plusieurs raisons. Un, parce qu'ils ne peuvent pas s'installer à côté de leur maison. Et deux, parce qu'une sorte d'entraide s'organise aussi. Je vous donne un exemple. Si moi j'ai du riz, vous avez du poulet et quelqu'un d'autre, ou un petit peu de viande ou des haricots, et quelqu'un d'autre a de l'huile, eh bien on peut faire une grosse tambouille ensemble et on mange tous ensemble. Ça, c'est une des raisons. Et il y a aussi la problématique de la visibilité, notamment dans les zones rurales enclavées, parce que c'est ça, cette spécificité de ce tremblement de terre-là, c'est que ça a touché cette fois-ci pas une métropole comme Port-au-Prince, mais vraiment des zones rurales extrêmement enclavées. Et donc, les gens qui sont en haut, il faut s'imaginer ça avec plein de petits hameaux et villages nichés dans la montagne, les gens, pour être visibles, se sont installés en camp de fortune, exactement ce que voulait éviter le gouvernement, le long des petits chemins de terre par lesquels passent parfois des convois humanitaires, tout simplement pour qu'on les voit et pour qu'ils reçoivent de l'aide. Et vous avez aussi ce phénomène, par exemple, que vous passez parfois par des chemins de terre et d'un coup, vous trouvez en plein milieu de la route une sorte de panneau qui indique avec une flèche qui montre la montagne, et derrière, vous ne voyez rien. Hein, on a besoin de l'aide, on est là-haut. Donc vous voyez, les gens essayent d'être visibles pour recevoir de l'aide.
Et alors, un des obstacles, parce que ça, on comprend bien que c'est un obstacle géographique finalement, un autre obstacle à l'acheminement de cette aide humanitaire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans vos reportages, ce sont les problèmes de détournement de fonds. C'est un problème qui est récurrent en Haïti. On va d'ailleurs tout de suite écouter une illustration. C'est un entretien que vous avez fait sur place avec le directeur de la mairie de Pestel. Il s'appelle Roldi Gilles. Il dénonce ces détournements dans sa ville et plus globalement dans le reste du pays.
D'habitude, les gens de la mairie font leur beurre avec la misère des plus démunis. Parce qu'il y a des gens dans la vie, dans la communauté, qui aimeraient se partager l'aide qui va arriver. Les autorités, le plus souvent, ils profitent des catastrophes.
Comment?
Qu'ils soient les autorités locales, qu'ils vont stocker, qu'ils vont revendre ces produits qui arrivent pour les plus démunis. C'est ce qui se passe tout en Haïti le plus souvent. Une fois les caméras sont là, tout est beau. Au départ des caméras, tout se vend sur le marché. Mais nous autres, on est contre cette situation-là. On peut nous tuer peut-être, parce que le système est vraiment dur en Haïti.
Stéphanie Schuller, cette aide humanitaire, comment est-ce qu'elle s'organise avec tous ces problèmes d'accès géographique et de détournement de fonds?
Alors, c'est vrai que le problème, en fait, que nous avons constaté, surtout immédiatement après le tremblement de terre, nous avons constaté que l'aide n'arrivait pas à la même vitesse partout au même temps. Vous voyez, donc il y avait déjà évidemment l'aide qui arrivait dans le département du Sud. C'était le plus accessible, la plus grande ville aussi. Ça s'appelle Lécaille. C'est là que les organisations, les grandes organisations humanitaires et internationales ont organisé un peu des QG. Et c'est vrai que les villages et les villes communes autour était assez vite desservi avec de l'aide humanitaire. C'était beaucoup plus compliqué pour les deux autres départements, par exemple la Grande-Anse et aussi le département des Nippes, parce qu'ils sont plus difficiles d'accès et c'est encore un problème d'infrastructure qui est récurrent, qui n'a rien à voir avec le séisme d'ailleurs. Il faut savoir qu'en Haïti, il y a seulement quelques routes nationales. Quand on parle d'une route nationale, c'est une route goudronnée, une voie dans chaque sens. Et cette route nationale, par exemple, qui mène de la ville d'Écaille dans le département du Sud vers la Grande-Anse a été endommagée par le séisme. Il y a des tronçons qui se sont affaissés. Il y a les pans de montagne, parce que vous savez peut-être qu'Haïti veut dire pays de haute montagne. Et en effet, il faut passer par la montagne, par les cols de montagne pour arriver d'un département à l'autre. Il y a carrément des pans de montagne qui se sont effondrés. Et ça, ça rend évidemment l'acheminement de l'aide compliqué.
Alors, justement, pardon, je vous coupe, Stéphanie, mais comment est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez pu vous rendre dans ces zones si difficiles d'accès? Et comment est-ce que vous avez pu assurer votre sécurité, sachant que la presse haïtienne s'est fait l'écho ces derniers jours, ces dernières semaines, d'une multiplication d'attaques de convois humanitaires par des gangs ou des personnes qui simplement attendaient cette aide depuis trop longtemps?
Oui, alors, ça, le problème de l'insécurité est encore un autre problème. Donc, l'aide par les organisations humanitaire a été acheminé par hélicoptère principalement, en fait par les hélicoptères américains d'ailleurs, par les gardes-côtes américaines qui sont arrivés et ça c'était très bien. Pour ce qui est de question de l'insécurité, il y a deux facteurs. Il y a l'insécurité en sortant de la capitale vers les départements du Sud, c'est le fameux quartier de Martissant et ce tronçon de route qui est contrôlé par des gangs depuis maintenant des semaines et des semaines. Ces gangs-là ont organisé à un moment donné une trêve. Ça veut déjà tout dire. En fait, c'est donc les gangs qui décident s'ils laissent passer ou non l'aide humanitaire. Ce n'est pas le gouvernement qui a le contrôle de la situation, ni la police, ni personne. Ce qui est déjà un peu révélateur de la situation assez aggravée de ce pays. Et donc, en fait, pendant cette trêve, nous-mêmes, c'est-à-dire le technicien de reportage Nicolas Benita et moi-même, puisque nous sommes blancs, nous n'avons pas osé, et je crois qu'on a bien fait, de passer par Martisson par la route. Nous avons pris un vol interne pour aller au CAI. C'est notre collègue et ami Markintov Casimir avec lequel je travaille depuis maintenant 12 ans, qui lui a estimé qu'il pouvait prendre la route pour qu'on dispose sur place d'un véhicule. En plus, il fallait un 4x4 parce que les zones sont difficiles d'accès et qui a fait le chemin par la route. J'étais pas tranquille pendant toute la journée, mais il est bien arrivé. Donc ça, c'est bien. Et à partir de là, on a pu circuler. Donc il y a le problème, en fait, de l'insécurité à Martissant, mais il y a aussi, en effet, le problème de l'insécurité dans des zones sinistrées. Vous disiez qu'il y avait des convois qui étaient attaqués. Et en effet, finalement, le gouvernement haïtien a décidé de faire accompagner les convois humanitaires qui passent encore par la route par des forces de police pour assurer leur sécurité.
Et comment se passe la distribution d'aide alimentaire? Est-ce que tout le monde y a accès lorsqu'il y a des distributions dans les villages, dans les zones les plus reculées? Est-ce que tous les villageois ont accès à de l'eau potable, des soins d'hygiène de base, des sacs de riz?
Alors, c'est justement ça le problème. Il y a des choses qui se passent bien aujourd'hui, alors qu'on parle. En effet, l'aide humanitaire arrive dans, on va dire, les centres-villes de toutes les communes des zones sinistrées. Mais il y a ce qu'on appelle en Haïti les sections communales, c'est-à-dire des petits villages et les petits hameaux, comme on parlait, en fait, dans la montagne, aux alentours de ces communes. Et là, l'accès est tellement difficile qu'il faudrait que les gens viennent donc récupérer cette aide. Et au moment de ces distributions, surtout au début, en fait, de cette crise humanitaire, il y avait en effet un problème avec cette distribution. Je vous cite l'exemple de la ville de Beaumont qui avait organisé, parce qu'elle avait encore des stocks juste après le séisme, de stocks de riz, 750 sacs de riz. Ils ont réussi à faire venir les représentants de ces villages et localités autour dans la ville de Beaumont. Et au moment de la distribution, il y a une ruée et les sacs de riz se sont envolés puisqu'il y a zéro policier dans la ville de Beaumont. Donc vous voyez, ça aussi, c'est un problème.
Et alors justement, on va écouter un témoignage que vous avez recueilli sur place, témoignage qui illustre bien cette distribution d'aide alimentaire chaotique. C'est une femme qui s'appelle Ismine Alexis. C'est une sinistrée qui vit sous une bâche tendue entre les ruines de sa maison. Et elle vit pas très loin de Beaumont. On l'écoute tout de suite.
Jean, il a fait distribution. Et sous la ria, nous
la façon dont on distribue la nourriture ne nous plaît pas. On ne va pas marcher jusqu'à la route nationale qui se trouve à plus de 5 km pour se faire tabasser sur place pendant une distribution de nourriture. Quelqu'un qui reçoit un kilo de riz risque de se faire fracturer le crâne. On n'y va pas. Nous sommes déjà traumatisés. Se faire en plus de ça tabasser n'arrangera pas les choses. Ça me ferait du bien de consulter un psychologue parce que je ne me sens pas bien. C'est clair, je ne peux pas me faire tabasser pour de la nourriture.
Parce que je me suis déjà senti pas bien.
Je voudrais juste réagir à ce son. En effet, ça c'était un problème en début, en fait, juste après le séisme. Aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des systèmes de distribution de cartes qui a été mis en place pour que toute cette distribution se passe de manière un tout petit peu plus ordonnée. Ouais.
On a un peu le sentiment qu'en Haïti, à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle, le pays repart de zéro. Comment expliquer que chaque catastrophe naturelle soit finalement suivie d'une catastrophe humanitaire, qui n'est pas une capacité d'anticipation de la part des autorités?
Mais il y a un vrai problème de prévention et de gestion de risque de désastre. Pourtant, les plans existent. Après chaque catastrophe naturelle, il y a des commissions qui sont mises en place. Maintenant aussi, c'est encore une fois le cas. Il y a des plans de reconstruction, de redressement, mais on a l'impression que après chaque catastrophe, ces plans-là disparaissent dans des tiroirs et ne sont pas vraiment suivis des faits. Ce qui fait qu'à chaque fois, on a l'impression que le gouvernement réinvente la roue et ça prend du temps et du coup, ça part en catastrophe humanitaire, en effet.
Et Haïti est un pays qui se trouve sur une faille sismique. C'est connu de tout le monde, des géographes en premier lieu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas d'abri parasismique et anticyclonique sur l'île?
Alors, d'abri parasismique, c'est compliqué. Oui, en fait, il faudrait avoir des abris provisoires, du coup, en fait, des constructions parasismiques et anticycloniques, parce que, par exemple, les écoles et les églises devraient être construites de manière parasismique et anticyclonique, parce qu'elles servent d'abri provisoire au moment des catastrophes naturelles. Mais ça, ce n'est pas fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit poser comme question aussi à la communauté internationale et aux grandes organisations internationales humanitaires qui interviennent, parce que c'est vraiment ça qu'il faudrait faire en premier lieu pour éviter que, par exemple, un ouragan arrive, les gens sont là sous des bâches ou dans leur maison livrés aux éléments naturels, vous voyez.
Alors on comprend bien, en vous écoutant Stéphanie Schuller, que les besoins aujourd'hui sur l'île sont absolument criants, et notamment pour éviter que cette crise alimentaire qui se profile ne s'aggrave. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur votre souvenir le plus marquant pour conclure cette émission. Quel est le souvenir que vous garderez en tête de ce reportage?
Je pense que mon souvenir que je garderai en tête, c'est la rencontre avec un monsieur qui s'appelle Albert Saint-Cyr, que j'ai rencontré alors qu'il était assis en train de réfléchir à l'ombre de sa maison complètement détruite sur un matelas. C'est l'image d'abord qui m'a saisie et ce que je garde en tête et en cœur, je pense que c'est le courage et la droiture qu'a eu ce monsieur, ce père de famille, pour aller de l'avant, pour sauver les siens.
Et on va l'écouter justement, Albert Saint-Cyr, pour refermer cette émission.
Comment faites-vous, monsieur Saint-Cyr, pour trouver autant de courage?
Nous obligés passer, et c'est nos têtes familles.
Je suis obligé.
Parce que nous-mêmes, si nous lâchons, nous-mêmes, j'avais nous découragés net.
Je suis le chef de la famille. Si je lâche, les autres vont s'effondrer. Je suis obligé de faire preuve de courage, parce que je suis un homme. Je dois faire en sorte de pouvoir soutenir le reste de ma famille. Si moi, je me lamente au lieu de tenir bon, les miens risquent de mourir.
Si moi je me lamente au lieu de tenir bon, les miens risquent de mourir. Une phrase Stéphanie Schuller qui illustre bien le courage et la résilience des Haïtiens. Merci beaucoup à vous d'avoir témoigné et de nous avoir partagé votre expérience dans cette émission. On se retrouve demain dans Décryptage. Très belle soirée sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré.